Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Aujourd'hui, nous allons réfléchir à la lumière de la Bible sur le sens d'une histoire sous forme de parabole issue du continent africain.
Dans un premier temps, Janine va nous raconter cette histoire et ensuite, Philippe me rejoindre sur le plateau pour nous dire en quoi elle représente une illustration pertinente de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Cédons donc la parole à Janine.
Merci Yann et bonjour à tous. Je vais vous parler de deux villages séparés l'un de l'autre par un grand fleuve. Dans l'un des villages habitait un homme nommé Monsieur Secret. Il était la seule personne dans son village sachant fabriquer des chaises et il gardait ce secret jalousement. En effet, il avait peur d'enseigner son savoir aux autres. Craignait-il, du fait de la concurrence, de perdre sa place et son gagne-pain? Quoi qu'il en soit, les années passant, il s'ensuivit que dans toutes les maisons du village, on pouvait trouver des chaises réalisées par Monsieur Secret et pourtant, il continuait à s'inquiéter. « Qu'arrivera-t-il si jamais quelqu'un découvrait mon secret ?» se demandait-il. Monsieur Secret se méfiait beaucoup des autres. Dès qu'il voyait quelqu'un porter des planches de bois, il avait peur que ce soit pour réaliser une chaise, et donc il se moquait de la personne et l'avertissait pour lui dire qu'il n'y arriverait jamais. Les gens du village devenaient malheureux et craintifs. Ils restaient à l'écart de Monsieur Secret. Ils achetaient toujours leurs chaises chez lui, mais ils l'évitaient autant que possible. Les jeunes du village auraient aimé apprendre comment fabriquer des chaises, mais ils n'osaient pas demander à Monsieur Secret de devenir l'apprenti. Certains avaient même fini par quitter le village. Dans le village situé de l'autre côté du grand fleuve, vivait un autre homme qui lui aussi savait faire des chaises. Il s'appelait Monsieur le Guide. Et il ne gardait pas ses connaissances secrètes. Au contraire, il voulait que d'autres personnes puissent en bénéficier pour fabriquer des chaises tout comme lui. Donc, chaque fois que quelqu'un venait chez lui pour acheter une chaise, il lui expliquait bien comment il l'avait faite et où se procurer le bois nécessaire. Peu de temps après, les jeunes du village commençaient à produire des chaises. Parfois, l'un d'entre eux découvrait une astuce pour améliorer la chaise et il allait chez Monsieur le Guide pour la lui montrer. Ce dernier l'encourageait à son tour à partager ses découvertes avec les autres jeunes. De cette manière, les chaises du village s'amélioraient toujours de mieux en mieux. Bientôt, la renommée de ces chaises se répandit aux alentours et les gens d'autres villages commencèrent à affluer pour regarder Monsieur le Guide travailler avec ses jeunes et pour acheter leurs chaises. Tous travaillaient ensemble dans une bonne ambiance. Ils chantaient, ils s'encourageaient mutuellement. Et quand quelqu'un venait louer Monsieur le Guide pour la qualité de ses chaises, il répondait toujours « Je ne les ai pas faites tout seul. Ces jeunes ont amélioré mes chaises. Moi, je vieillis et bientôt je ne pourrai plus travailler. Mais cela... » continueront à fabriquer des chaises et ils sortiront des modèles toujours de meilleure qualité. Je leur ai fait part de mes connaissances et de mon savoir-faire et en retour, ils m'ont fait cadeau de leur amitié et de leur amour. Ensemble, nous avons accompli énormément. Je n'aurais jamais pu faire tout cela seul sans eux.
Merci Janine. Cette histoire fait réfléchir et j'ai envie, chers amis, de vous demander dans quel village vous préféreriez vivre. La réponse, me semble-t-il, est évidente et claire. La vie est meilleure dans le village où réside Monsieur le Guide. À présent, notre invité Philippe va discuter avec Yann sur les leçons que nous pouvons tirer de cette histoire. Cédons-lui la parole.
Merci Hélène et bonjour Philippe. Merci pour votre participation aujourd'hui.
Merci Yann et bonjour à tous.
L'histoire que nous venons d'écouter est très parlante, mais quel en est le thème principal?
Pour moi, cette histoire nous interpelle au niveau de notre engagement envers les communautés dont nous faisons partie. Une communauté est simplement un réseau de relations humaines. Notre famille est une communauté. Le village ou le quartier dans lequel nous vivons est une communauté. Et puis si vous faites partie d'une église, elle aussi constitue une communauté.
Et en quoi cette histoire nous interpelle-t-elle ?
L'histoire révèle deux attitudes possibles. Dans la première partie, nous rencontrons un homme qui ne vit et ne travaille que pour servir ses propres intérêts. Il ne se soucie pas des intérêts plus larges de son village et de ses habitants. Il se montre très personnel, égoïste. Puis, dans la deuxième partie de l'histoire, nous découvrons un homme qui prend plaisir à contribuer au bien de sa communauté. Par son travail et son comportement, il cherche le bien de tous.
Et nous constatons que ces deux attitudes différentes ont des conséquences sur l'ambiance du village et sur l'humeur de ses habitants.
C'est exact, Yann. Il ne faut jamais l'oublier. Qu'on le veuille ou non, notre attitude envers les autres influence leur humeur. Monsieur Secret était anxieux, méfiant et parlait sèchement aux autres. Du coup, les villageois le craignaient et se méfiaient à leur tour de lui. De plus, cette relation difficile rendait les villageois plutôt malheureux. Mais quel contraste avec Monsieur le Guide. Grâce à sa bonne attitude, tout le monde avait l'air de bien s'entendre. Les gens étaient heureux et les jeunes prenaient des initiatives. Et tout le village en bénéficiait. La question que nous devons tous nous poser est celle-ci. À qui ressemblons-nous le plus ? À Monsieur Secret ou à Monsieur le Guide ?
Oui, il s'agit d'une question qui nous interpelle profondément. Mais Espérance aujourd'hui se présente comme une mission de réflexion biblique. Il est alors approprié de se demander ce que la Bible déclare à ce sujet.
Vous avez raison, Yann. En fait, l'attitude de Monsieur le Guide reflète davantage les valeurs bibliques et nous sommes exhortés à ne pas reproduire le comportement de Monsieur Secret. J'aimerais, dans un premier temps, nous écoutions une lecture biblique tirée de l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 2. Versets 1 à 9.
N'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort, dans l'amour un encouragement, par l'Esprit une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité, ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même, et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant, jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix.
Une église est une communauté composée de personnes unies par leur foi en Jésus-Christ. Cependant, il faut l'avouer, si certaines églises sont de bonnes communautés, des havres de paix et d'amour où les croyants grandissent dans la foi et servent le Seigneur en harmonie, il en est d'autres, malheureusement, où l'ambiance n'est pas très bonne, où les divisions et les conflits enlèvent tout espoir de trouver la paix et l'harmonie. Dans le texte lu, Paul souligne ce danger. Il est de la responsabilité de chaque croyant de promouvoir l'amour fraternel et l'unité. Comme le dit l'apôtre Paul, notre service au sein d'une église ne doit pas être motivé par la rivalité ou des ambitions personnelles et égoïstes. De telles personnes créent des conflits, suscitent la méfiance et l'anxiété et répandent une mauvaise ambiance, tout comme l'a fait Monsieur Secret dans son village. Paul nous encourage, au contraire, à rester humble et à considérer les intérêts des autres. Notre service au sein d'une église doit refléter un désir sincère d'aider et de soutenir nos frères et sœurs. Quand nous avons ce regard positif sur les autres, quand nous sommes animés par l'amour fraternel, alors nous répandons une bonne ambiance et nous promouvons la paix et l'harmonie.
Merci Philippe. Et pour affirmer que de telles attitudes s'appuient sur l'exemple de Jésus.
Tout à fait, Yann. Paul nous encourage à suivre et à reproduire l'exemple de Jésus. Jésus a quitté les lieux célestes pour vivre parmi les hommes, afin de servir nos intérêts. Il est devenu un serviteur, notre serviteur, pour répondre au mieux à nos véritables besoins. Il n'avait pas d'ambition politique. Il ne cherchait pas à exploiter les autres, ni à des fins financières, ni pour obtenir des faveurs sexuelles. Puis, il est mort sur la croix. Cependant, même dans sa mort, il a servi nos meilleurs intérêts, car il y a pris nos péchés pour en subir le juste châtiment à notre place. Il est de notre intérêt de recevoir le pardon et de nous réconcilier avec lui. En devenant notre serviteur et en mourant sur la croix, Jésus a rendu ces choses possibles. Jésus est donc l'exemple par excellence du service désintéressé. C'est cet exemple-là que chacun doit suivre.
Merci Philippe pour cette exhortation importante. À présent, je pense que vous voulez nous faire part d'un autre texte biblique.
Oui, c'est exact, Yann. Écoutons la lecture de ce texte dans 2 Timothée chapitre 2, versets 1 et 2. Une fois de plus, c'est l'apôtre Paul qui écrit.
Toi donc, mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée, dans l'union avec Jésus-Christ. Et l'enseignement que tu as reçu de moi, et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance, qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres.
Ici, Paul souligne l'importance de la formation. Il est nécessaire de partager ses connaissances et d'aider d'autres personnes à acquérir des dons et des aptitudes pour servir Jésus et l'Église. Malheureusement, certains pasteurs ou responsables d'église n'ont pas de vision pour la formation des croyants. Certains veulent tout faire et ne permettent pas aux autres de servir selon leurs dons. Ils ne leur donnent pas l'occasion de développer leurs aptitudes. Et ceci n'est absolument pas la vision ni de Jésus ni de l'apôtre Paul. Jésus a choisi 12 disciples. Ces hommes l'ont accompagné, ils l'ont suivi de près. Ils ont écouté son enseignement. Ils ont vu son exemple. La façon dont il a agi et réagi dans diverses circonstances. Les 3 ans que les disciples ont passés avec Jésus étaient des moments d'apprentissage et de formation privilégiés qui les ont préparés pour leur ministère futur. Paul a suivi l'exemple de Jésus. Il a identifié les personnes qui avaient des aptitudes potentielles, comme Timothée par exemple, et il les a formés pour le ministère. Il les a encouragés à leur tour à en former d'autres. Sans cette formation, l'Église ne pouvait survivre ni se développer de génération en génération.
Merci Philippe. L'histoire de Monsieur Sucré et Monsieur le Guide est riche en instruction. Il convient à chacun de s'examiner et de se demander comment il pourrait être davantage un Monsieur le Guide, que ce soit dans son village, dans son quartier ou dans son Église.
C'est ainsi que nous terminons notre émission. En espérant vous retrouver bientôt, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.